It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Thunes, le premier podcast intime sur l'argent.
En fait, quand t'achètes une BD à 20 balles, moi j'ai 2 euros et une fois que j'ai remboursé, ce putain d'avaloir. Et si j'arrive à bien vivre, c'est parce que je bosse tout le temps.
On était au mois de mars, je zonnais sur Instagram et j'ai repéré un post de l'autrice de BD Mademoiselle Caroline. Elle y expliquait en dessin la fameuse répartition de rémunération de la chaîne du livre et elle était assez vénère, en tout cas suffisamment pour que j'ai envie de la contacter. Avec elle, aujourd'hui, on va parler de passion, de la fameuse passion des auteurs, de dessin évidemment, d'intranquillité et puis de santé mentale aussi. Cette fameuse paix de l'esprit qui n'est pas vraiment offerte aux auteurs ni aux indépendants, toujours tiraillée entre la peur de manquer et la suractivité. Quand on est son propre patron, on est bien souvent son propre tyran. Et puis on évoquera ces choses qu'on ne maîtrise pas, ces facteurs qu'on appelle sociétaux, comme par exemple être une femme dans un milieu historiquement préempté par les hommes, et les conséquences économiques que ça a. Bref, c'est un épisode riche, hyper sincère, passionné, et qui prouve une fois de plus que faire ce qu'on aime, ça a souvent un coût. Bonne écoute. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci d'être venue parler d'argent au micro de Thunes. Caroline, tu as 49 ans ?
Oh, 50.
Oh, 50.
Oh, ça y est, c'est fait.
Aïe, aïe, c'est fait. Tu es BDaste, autrice de BD, tu préfères qu'on dise quoi ?
Autrice de BD, ça me va.
Autrice de BD.
Ouais, ouais.
Alors tu fais ça depuis longtemps, t'as sorti plein d'albums.
Ouais.
Et aujourd'hui donc t'es venue parler, nous raconter un petit peu comment ça se joue niveau thunes.
Ouais, ouais, ouais.
Donc toi aujourd'hui tu vis à Annecy.
J'ai quitté Paris il y a 24 ans. Ouais, ouais. J'en avais marre de Paris, j'aimais pas Paris et je ne rêvais que de montagne et de faire du ski.
Toi t'es parisienne à la base.
Je suis banlieusarde, c'est même pire. Je suis née dans le 9-3, j'ai grandi en Essonne, j'ai fait mes études et j'ai commencé ma vie professionnelle à Paris. Pas longtemps, hein, j'ai dû travailler 2 ans à Paris. J'ai commencé dans une agence de pub et puis après je me suis mise à mon compte. Donc j'étais chez moi, hein, dans mon appart.
On va revenir un peu, hein, c'est ce qu'on fait à chaque fois dans ce podcast, sur tes origines, d'où tu viens, ce que faisaient tes parents. Et avec quelle idée de l'argent t'as grandi ? Est-ce que t'avais envie d'en avoir ou pas ?
Je me suis beaucoup posé ces questions parce que j'ai notamment fait une dépression, enfin plusieurs dépressions. Et je suis sûre que c'est lié à l'argent. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que je me suis dit que cette angoisse devait venir de quelque part, donc de l'enfance, des parents et tout. Et c'est pas impossible. Alors, mon père était notaire et ma mère clerc de notaire. Donc,
wow.
Des gens tout à fait dans l'art. Alors, quand je dis ça, en général, les gens disent « Oh, notaire, ils étaient blindés ». Mais moi, j'ai toujours vu mes parents ramer, parce que, mais ça, je l'ai compris plus tard, en fait. Mon père avait repris une étude déficitaire. Et donc, il fallait redresser la barre, quoi. Et je me souviens aussi très bien avoir, je pense, vécu ma première crise d'angoisse au moment où, tu sais, je sais plus à quel âge, tu dois un peu choisir ton orientation. Et moi, je dessinais depuis toute petite, donc je savais qu'il y avait que ça qui comptait, où j'étais bien, où j'étais peinard, où d'abord on me fichait la paix. Et puis le fait que, il fallait que je reprenne l'étude. J'avais le choix entre une situation installée dans la société ou alors j'étais artiste. C'était synonyme de ramer toute sa vie, en fait. Déjà, c'est pas un vrai métier, ça, ils me l'ont dit. Et après, on gagne pas sa vie en faisant des dessins. Et je me souviens avoir paniqué des heures entières, des jours entiers, des mois entiers à me dire « Mais en fait, je veux dessiner, moi. Je veux pas du tout être notaire, même si c'est super intéressant, je dis pas, mais... Puis c'est con, fallait être habillée comme un notaire, quoi. C'était pas possible. Même si, non, maintenant, ok, tu peux t'habiller comme tu veux quand t'es notaire, évidemment, mais pour moi, dans ma tête, c'était, il fallait que je sois habillée comme ma mère, quoi.
Mais il n'y avait pas vraiment d'entre-deux, quoi. C'était soit notaire, soit le dessin.
Ouais, on a passé un deal avec mes parents. Le deal, c'était, ok, je passe votre putain de bac éco, mais après, j'ai le droit de faire du dessin, s'il vous plaît. Donc, ils ont dit oui, mais ils m'ont choisi l'école. Une école privée qui s'appelle Penningen. D'ailleurs, ils ont dû se ruiner, les pauvres, tellement elle coûte cher. Mais comme c'est la plus dure, je pense aussi qu'ils ont dû se dire « elle va se rétamer et puis elle fera jamais les 5 ans ». J'ai jamais autant travaillé de toute ma vie, même maintenant.
Est-ce que quand, à cette époque-là, donc on va dire fin des années 90, la notion d'argent est importante déjà quand vous êtes étudiant? Il y en a qui clairement savent qu'ils veulent bosser dans la pub pour gagner un max de pognon. Il y en a qui sont convaincus qu'ils vont être des artistes, mais possiblement incompris et que c'est OK. Est-ce que tu vois déjà des profils qui se dessinent?
Il y avait effectivement vraiment le mec qui se disait « Moi, je m'en fous, je vais peindre, en fait. » Et t'avais le type qui se disait « Moi, je vais bosser dans la pub, je vais faire des super concepts, je vais faire des affiches, des expos, des machins. » Et là, clairement, il y avait plus un côté « je vais en vivre », en fait. Alors que le type qui voulait juste peindre, il voulait juste peindre. Mais on nous faisait clairement comprendre que puisqu'on sortait de Penningen, on avait une valeur inestimable et qu'on pouvait demander, on pouvait faire des devis hallucinants.
Donc tu sors, t'es diplômée, ouais. T'es directrice artistique.
Ouais.
Et de là, tu vas bosser dans la pub, sans te poser de questions, hop.
C'était du temps encore où tu n'avais pas les réseaux, il n'y avait pas non plus de réseau. Tu voyais les gens, tu avais rendez-vous, tu arrivais avec ton book papier. Donc, il y avait un vrai contact. Et je pense que c'était plus facile aussi.
Donc, premier boulot. Tu gagnes bien ta vie?
Ah, je m'en souviens encore, je gagnais 10 000 francs. Et pour moi, passer le cap des 10 000, c'était waouh, c'était trop bien. Je vivais à Paris, dans le 17e, avec celui qui est devenu mon mari. On avait un chouette appart. On était jeunes, on mangeait un sandwich, ça nous suffisait. On n'avait pas d'enfants. C'était super, quoi.
Et le boulot te plaisait?
Bof. Bof. Je me suis dit, mais alors attends, réfléchis. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas quitter l'agence et tu vas te mettre illustratrice. Comme ça, ils vont te rappeler. Tu vas juste faire les dessins et y être payé en plus.
Donc toi, tu t'es mise à ton compte bien avant que ce soit la mode de se mettre à son compte.
Ah ouais, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'à ce moment-là, ouais. Mais j'étais vachement aidée aussi par le fait que j'avais un agent qui, lui, me trouvait énormément de boulot. Bon, après, il oubliait de me payer, mais c'était une autre histoire. Mais ouais, ça m'aidait vachement. Puis après, j'ai quitté Paris, donc c'était cool qu'il soit, lui, sur Paris pour continuer à démarcher... Alors que j'étais en montagne, quoi.
Donc à cette époque-là, tu gagnes bien ta vie?
Ah ouais, je gagne super bien ma vie. Ouais. Enfin, c'est hyper variable, mais je me souviens que, par exemple, pour un dessin, c'était pour La Poste, un dessin qui m'avait pris un quart d'heure, j'avais gagné 5000 euros, par exemple.
Donc là, t'es dans la période florissante.
Florissante niveau métier. Ouais, parce que j'ai cet agent, parce que je suis dans la pub, parce que je gagne super bien ma vie. Mais j'ai toujours été sur la corde de raide niveau, mental.
Santé mentale.
Ouais, santé mentale. Je savais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Et je pense que c'est le fait d'avoir un enfant. J'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'avoir un enfant. Je suis juste tombée amoureuse d'un mec qui voulait des enfants. Donc, j'ai fait des enfants, quoi. Alors, c'est pas méchant, mais à l'époque, pour moi, c'était un boulet. Un enfant, enfin une attache, tu vois, un truc, fallait que j'assure maintenant. J'ai vraiment sombré, assez méchamment. Et
à l'époque, on parlait pas de postpartum, même si c'était il y a pas très longtemps.
Mais ouais. J'ai découvert ça il y a pas longtemps qu'en fait, ça devait être ça. Hein. Ça a réveillé tellement plein de trucs que tout a explosé, mais il y a eu trop de trucs en même temps, quoi. Il y a eu mon fils, le déménagement Et donc cet agent qui me payait pas, lui il encaissait l'argent puis il oubliait de me reverser ma part en fait. Et je me souviens très bien qu'à un moment donné, je devais acheter ce chauffe-biberon et que je regarde donc mes comptes, un truc tout con, et je vois que je n'ai pas d'argent. Alors que je travaille comme une tarée depuis 2 ans par exemple. Donc je l'appelle et je lui dis, mais dis donc, le dessin machin, le contrat truc muche, j'ai rien reçu, c'est normal. Et t'inquiète pas. Et en fait, à cette époque-là, il me devait 30 000 balles. Et j'ai mis 2 ans à tout récupérer. Ouais. C'est dur parce que j'aurais dû le surveiller, mais non, je suis désolée, j'aurais pas dû, c'est de la confiance. Et puis, parce que du coup, t'achètes pas ton chauffe-biberon, t'es obligé de pleurer, tu peux pas payer la crèche, enfin, alors que potentiellement tu l'as cet argent et t'as travaillé pour. Donc après, j'avais demandé au client de me payer directement, et c'est moi qui lui ai reversé sa com. Et puis, au bout d'un moment, on s'est séparés, quoi.
Mais tu penses que c'est aussi ça qui t'a fait plonger ?
Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, très très clairement. Très très clairement. Et à cette époque, je me souviens que je commençais mes journées en allant sur le site de la BNP pour regarder où j'en étais. Mmh. Mais ça en était devenu une maladie parce qu'en fait, je pense qu'aussi ça donnait raison à mes parents qui me disaient que c'était pas un vrai métier. Tu vois bien, Caroline. Mmh. Parce qu'à un moment donné, c'est eux qui ont payé la crèche de mon fils, quoi. Mmh. Voilà.
Gentiment ?
Oui, gentiment. Oui, oui, gentiment. Mais pour moi, c'était... merde, ils ont raison, en fait. Mmh.
Donc, c'est à ce moment-là, quand même assez jeune, que tu commences à avoir ton premier, on va dire, souci d'argent en te demandant « Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu ?»
Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, en fait. Ouais. Et puis, moi, ça va très, très vite. Hein, dans ma tête, s'il y a un truc qui va pas, faut que j'ai la solution là maintenant tout de suite. Donc je m'étais dit bon, alors je vais changer de métier, puis je vais faire factrice, et puis et puis je me suis rendu compte après que je savais rien faire d'autre en fait que du dessin. Et puis maintenant que j'étais partie de Paris, que j'étais perdue au fin fond de la montagne, va trouver une agence de pub pour bosser en tant que graphiste. Il y avait pas encore le travail à distance ou les choses comme ça aussi. Hein. On était au début des années 2000, donc j'ai eu un beau gros passage à vide, ouais.
Et ensuite, t'as 2 autres enfants.
Après, j'ai des jumeaux. T'as des jumeaux. 5 ans après.
5 ans après.
Je ne me sentais pas la force de faire comme pas mal de parents d'enchaîner les enfants pour être tranquille après. Moi, il fallait que j'en lance un qui soit plus ou moins autonome pour pouvoir me retaper un autre enfant derrière. Parce que j'avais toujours pas ce désir d'avoir des enfants. Et coup du sort, j'ai eu des jumeaux.
Voilà.
Donc, bonne dépression aussi. La pire, elle est venue après.
Dans ces cas-là de dépression, t'arrives à continuer à bosser, à faire bouillir la marmite? Parce que avoir des enfants, quand t'es indépendant, quand t'es freelance, c'est super dur.
Ouais.
Est-ce que ton mec peut prendre le relais? Est-ce que lui, il a un poste fixe?
Oui, lui, il a un poste fixe. Heureusement, lui, il est directeur artistique, il a monté sa boîte. Lui, tout roule. Voilà, donc il a un revenu fixe. Mais ça n'arrivait pas à me tranquilliser, en fait. Parce que ma mère m'a toujours dit, il faut que tu sois indépendante, on ne sait jamais, un bonhomme, ça peut partir. Et puis, elle avait un côté finalement très féministe, t'es une fille, tu t'assumes aussi, quoi. Pour mon fils aîné, je ne me suis pas du tout arrêtée de travailler, quasiment pas. Et puis pour les jumeaux aussi, en revanche, j'ai pris 2 mois. Mais tu vois, ouais. J'ai pris 2 mois.
2 mois.
Ah ouais, 2 mois où...
C'est rien.
Non, c'est rien. Ils étaient en crèche à 2 mois et demi. Hein.
Ta première BD, c'est quand ?
Ma première BD, en fait, je l'ai dessinée pendant que j'étais enceinte de mon fils. Donc en 2002. Mais j'ai attendu des années avant d'être vraiment publiée parce que, n'ayant aucun contact... J'envoyais, tu sais, comme on envoie aux maisons d'édition, là.
Par courrier ?
Par courrier, bien sûr. Et la réponse qu'on m'a fait le plus souvent quand on me répondait, c'était « Mais qui voulez-vous que ça intéresse ?» Sachant que je parlais de la grossesse.
Donc, ta première BD, c'est sur la grossesse.
On m'avait toujours dit qu'avoir un enfant, c'est le truc le plus merveilleux pour une femme, que c'était l'épanouissement le plus total. Et moi, j'ai détesté être enceinte. J'étais malade comme une chienne, j'ai pris 23 kilos, les hormones laissent tomber, enfin, J'ai tout détesté. Sentir le bébé, ouais, c'est marrant, mais 10 secondes, et puis après, ça va. Donc, j'ai voulu, je sais pas, raconter ça à cet enfant en lui disant « Excuse-moi, mais il faut que tu le saches et ça veut pas dire que je t'ai pas aimé. J'ai juste été extrêmement déçue parce qu'on me promettait être merveilleux, quoi. » Et je le faisais lire aux copines qui disaient « Ouais, mais tellement, mais ça, et tout ça, en fait, c'était avant Florence Foresti. » Quand elle a sorti son spectacle, c'est là que j'ai été publiée. Parce qu'elle
en parle dans son spectacle.
C'était Serial Mother, un truc comme ça. Et en fait, les gens aux commandes, qui étaient principalement des hommes, je suis désolée, se sont rendus compte que, oui, peut-être qu'effectivement, il faudrait parler de ces choses-là et qu'il y a un public pour ces choses-là. Donc, je suis publiée chez une petite maison d'édition qui s'appelait City Edition. Et j'ai fait 3 albums chez eux, Enceinte, Maman et Quitter Paris, qui raconte comment une Parisienne part vivre à la montagne. J'ai jamais rencontré l'éditeur. Ça m'a extrêmement déçue aussi. Alors ça, je me souviens très bien, mon premier avaloir de BD, il m'a payé 3000 euros. Et en droit, je crois que j'avais 8% de droit à l'époque.
Tu peux expliquer ce que c'est un avaloir ?
Un avaloir, c'est la somme que tu reçois pendant que tu dois travailler à cet album, pour fabriquer cet album. C'est un avaloir sur les futurs droits que tu vas percevoir sur cet album. Seulement, je vais les percevoir une fois que cet avaloir sera remboursé. Alors, ils aiment pas rembourser, attention, faut pas dire ça, faut dire compenser. Mm-hmm. En fait, tu rembourses cette somme, puisque tu la rends. Si tu imagines que j'ai une avance de 1000 euros et que je touche 10% de droits d'auteur. Ce qui est le cas maintenant, je touche 10%, sur un livre vendu à 10 euros. Je vais donc toucher 1 euro par BD vendu. Seulement, il va falloir que je rembourse l'avaloir. Donc, je ne toucherai rien sur les 1000 premières BD vendues, puisque comme ça, je vais rembourser mon avance. Je vais compenser mon avance. Et quand j'aurai vendu 1001 albums, là, j'aurai le droit de toucher...
Le supplément.
7 euros, ouais. Enfin, 7 CET euros.
J'ai vu sur Instagram en janvier un post que tu partageais où tu parlais de cette fameuse chaîne du livre.
Ouais.
Où on se rend compte que l'auteur est la personne qui, dans toute la chaîne, est le moins payé, derrière l'éditeur, derrière le libraire. Mais ça, dès le départ, j'imagine que tu t'en rends compte quand tu sors ta première BD.
Mais non, mais je m'en fous. C'est ça le pire. Et c'est comme ça qu'ils nous ont, entre guillemets, c'est qu'on est tellement content d'être signé qu'on dit même merci. Ouais. Quand le type, il te paye 3000 euros alors que tu sais que tu vas bosser un an, mais t'es contente.
Ouais. C'est une reconnaissance de toi.
Ouais, c'est une reconnaissance et puis c'est une permission en fait. On te permet de faire ce que tu veux, quoi. Et t'es payé pour. Sauf que t'es payé 3000 euros. 3000 euros. Et même mon premier avaloir chez Delcourt quand j'ai fait ma BD, c'était 7000 euros. Mais pour un an de travail. Et là-dessus, tu payes des charges.
Et comment tu fais ?
Tu payes des impôts.
Comment tu fais ?
Je fais beaucoup d'albums. Je fais beaucoup de travail. Je bosse tout le temps.
T'es quand même aujourd'hui une autrice qui compte dans la BD.
Bon, non, je pense pas, non.
Moi, je crois que si, quand même.
Ben, non. Non, je sais pas si...
Mais qui compte à ce moment-là ? Enfin, Pénélope Bagieu,
écoute, alors je fais un peu gaffe à ça, mais quand on parle des autrices BD, il y en a deux. Il y a Pénélope Bagieu et Catherine Meurice. Les autres n'existent pas.
D'accord.
Les autres, on n'en parle jamais.
Mais tu vas à Angoulême, par exemple.
Mon éditeur Delcourt m'a invité une seule fois en 15 albums à Angoulême.
D'accord.
Pourquoi, je ne sais pas. Je lui dis, mais j'ai quand même une question. J'arrive au 15e album. Pourquoi je suis jamais allée à Angoulême ?
Ah, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Mais aujourd'hui, t'es à combien d'albums sortis ?
J'ai pas compté. Je crois que je suis à 15 ou 16 albums.
15 ou 16. Ouais. C'est quand même. Une vraie production. Quand même,
Oui.
Ok. C'est dans ces albums-là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a un. Donc, t'en fais un en 2013 qui fait date, qui est sur la dépression.
Ah oui, hein, Chute libre.
Qui s'appelle Chute libre.
Ouais.
Et puis en 2016, t'en sors un sur le syndrome d'Asperger.
Et j'en ai vendu plus de 100 000, ce qui est quand même pas mal.
Mais quand tu vends plus de 100 000 exemplaires d'une BD, c'est quand même une super réussite.
Ah oui, oui, c'est très bien. Oui, oui, c'est très, très bien.
Quand tu vends plus de 100 000, tu touches combien à peu
près? Je crois qu'à 3 000 exemplaires, l'éditeur est remboursé, il est content, voilà. À 5 000, je crois que c'est quand même un petit succès. Ouais. Et au-delà, c'est vachement bien. Donc oui, oui.
Alors, je sais pas combien de fois t'as vendu 100 000 exemplaires de
BD. Ah bah non, j'en ai qu'un.
C'est juste Chute libre.
Ouais, ouais, ouais. Non, c'est juste La différence invisible, plus de 100 000. Je sais pas, mais je crois que c'est mon deuxième album qui se vend le mieux aussi.
Ouais. La différence invisible, qui est celui sur l'autisme.
L'autisme, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais.
Donc ça, c'est des gros succès. Donc ça peut te permettre de vivre, par contre, plusieurs années.
Une fois que tu touches les droits, une fois que t'as remboursé la Valoir.
Ouais.
Là, je touche enfin des droits. Je crois qu'avec La différence, je touche 10 000 euros de droits par an.
D'accord.
Donc ça met du beurre dans les épinards.
Oui, parce que les droits sont recalculés tous les ans.
Tous les ans, ouais.
Une fois par an.
Chez Delcourt, deux fois par an. Ça, c'est vachement chouette. Donc, voilà. Je crois que c'est aux alentours de mai-juin et en décembre.
Mais j'imagine qu'une BD se vend quand même de moins en moins au fil des années, non?
Eh bah, pas la différence. C'est très stable.
Pas la différence.
Oh ouais, elle continue. Visible. Et ça va faire 10 ans quasiment qu'elle est sortie.
Ah oui, c'est incroyable.
Mais ça, c'est incroyable. Je ne me l'explique pas. Hein.
Bah, c'est peut-être que vous êtes les seuls à parler de l'Asperger. Peut-être qu'il n'y a pas assez de bouquins sur le sujet.
Ouais, peut-être. Il y a deux jours, je reçois un message de Corée. On est édité en Corée, d'un jeune homme qui me dit moi ça m'a guéri, ça m'a soigné, j'ai compris, je me suis fait tester, hop hop hop, et maintenant je vis, quoi.
Incroyable.
Mais c'est un truc c'est vraiment incroyable. Donc La différence sur l'Asperger, là, La différence invisible et Chute libre sur la dépression, c'est vraiment les deux livres où j'ai, mais vraiment tous les jours, des messages de gens qui me font ce genre de remarques, ouais.
C'est aussi pour ça que tu faisais ce métier?
Ouais, ouais, je crois. Mais typiquement, quand j'ai écrit sur la grossesse et le fait de pas être enceinte, c'est parce que j'étais choquée, en fait, qu'on n'ait pas envisagé le fait qu'on puisse parler du fait qu'une femme ne puisse pas aimer être enceinte, quoi. Mmh. Et donc, c'est pour partager une impression, pour que les gens en face se sentent moins seuls aussi. Mmh. Et en fait, il n'y a que ça qui marche, quoi. Ça aide vachement. Mais c'est vrai qu'en général, c'est vachement basé sur ce que je ressens.
Excuse-moi, mais j'arrive pas à comprendre que quand tu vends 100 000, tu te retrouves pas dans le game de celle qui compte. Enfin, c'est quand même pas mal.
Bah écoute, alors en admettant que je compte dans le game de la BD, je ne l'ai jamais ressenti.
Ouais.
Et on ne me l'a jamais fait ressentir. Je suis restée donc chez Delcourt pendant pas mal d'années, j'ai fait une quinzaine d'albums chez eux, je ne me suis jamais sentie autrice maison.
Mais c'était qui les auteurs maison, par exemple?
Ah bah tous les hommes, genre Trondheim, oui. Toulmé, tout ça, qui sont des gens très sympas par ailleurs, mais Alfred aussi, c'est vraiment la base. Ils sont à Angoulême tous les ans, ils sont à Saint-Malo tous les ans, on se pose même pas de questions. Bon, après, j'ai peut-être pas leur chiffre de vente, je suis pas bloquée là-dessus, je regarde pas, j'en sais rien, quoi. Je sais juste ceux-là parce qu'ils sont importants, mais... Mais je sais aussi que il y a très, enfin ça, c'est en train de changer, mais il y avait très peu de filles aussi d'invitées. Voilà, c'est comme ça.
Ce que j'ai compris aussi en lisant une de tes BD, puisque bon, donc c'est très largement autobiographique et que tu parles de tes conditions financières aussi, notamment dans la vie d'artiste,
ouais,
c'est que t'es rangée dans la catégorie girly. Alors ça me choque parce que tu dis en plus j'apparais au moment de l'émergence des blogs de filles.
Oui.
Et donc même si je traite de sujets qui sont anatomiques, sociétaux, je suis toujours girly. Et être rangée dans cette catégorie, toi tu penses que c'est pénalisant?
Ben bah, oui.
Ouais.
Ben oui, parce que c'est pas dit de façon sympa, les dessins girly. Le monde de l'édition, alors encore une fois, c'est en train de changer, mais c'était quand même principalement des mecs qui dessinaient pour des mecs, des histoires de mecs. Et puis quand il y avait une nana dans une BD, elle avait des gros seins et elle servait des verres, quoi. Je caricature, d'accord, mais quand même. Donc quand t'arrivais avec tes histoires de femmes enceintes... pas forcément sexy, et voilà, ben oui. Puis tu racontais des histoires de filles, donc tu ne pouvais que t'adresser aux filles. J'ai fait une BD avec Julien Blangras, pour moi un super auteur, donc un romancier. un journaliste sur le voyage, ça traitait du voyage. Ça n'a rien de girly. En plus, mon héros, pour le coup, c'était un mec. Mais non, mais c'était quand même... Je suis rangée dans la catégorie girly.
Et ça, par exemple, une BD comme ça, elle s'est bien vendue ?
Non, je crois qu'elle s'est pas bien vendue, celle-là. Si on a fait 5000 exemplaires, peut-être 6000, et encore, je suis pas sûre. Non, elle a pas marché.
Mais quand tu vends 5-6 000 comme ça d'une BD, j'imagine que c'est un peu la douche froide.
Nous, on ne rembourse pas la valoir. Ça, il faut le dire. Bon, en même temps, on a fourni le travail, donc on est payé pour. Je ne vois pas où est le problème.
Oui.
Après, c'est une déception parce que, par exemple, typiquement, cette BD avec Julien Blangras, j'ai adoré. C'est parce que j'ai adoré son roman qu'on a décidé d'en faire une BD et que voilà. Mais ouais, j'aurais aimé que plus de gens la lisent, évidemment. Sinon, je ne le ferais pas, mais... Après, c'est une super expérience avec ce type. On est toujours en contact. Voilà.
Est-ce qu'à un moment, tu te dis, oh là là, dans quoi je me suis embarquée ? C'est super dur, quoi, d'être auteur indépendant.
Bah ouais, je me le dis tout le temps, en fait. Après, c'est super dur d'être à son compte. Il doit y avoir des personnalités pour qui ça pose pas de problème. Mais moi, qui suis sûre de rien et surtout pas de moi-même... c'est super dur, il faut tout faire, quoi. Faut se vendre, faut faire la compta, faut savoir se présenter, faut savoir défendre ses idées, faut être créatif. Et puis, moi, j'ai l'impression de travailler tout le temps, même si ça se voit pas, quoi. Et c'est épuisant. Moi, je suis épuisée, en fait. En fait, je suis épuisée. Puis, pour gagner sa vie, il faut tellement travailler. Parce que même maintenant, j'ai des avaloirs qui sont quand même vachement mieux, mais ça me permet pas de tenir un an si je fais qu'une BD, quoi.
Oui, alors justement, t'as plein de petites techniques pour gagner ta vie à côté de la BD.
Ah oui. Ouais. Bah oui. Bah oui, je fais plusieurs trucs, du coup. Donc, je fais de la BD, une par an, j'essaye. Après, j'ai des BD ou des livres un peu plus... pour gagner de l'argent, en fait.
De commandes.
Et puis, mais ça, j'ai arrêté, ça prenait trop de temps. Je fais des portraits de famille, en fait. Les gens m'envoient leurs photos et je leur dessine le portrait, en fait. Mais les gens comprennent pas que quand ils m'envoient des photos d'eux avec des lunettes et les cheveux attachés, je vais forcément les dessiner avec des lunettes et les cheveux attachés. Parce que je ne les connais pas. Et en fait, ils me disent, bah non, mais pas du tout. Maintenant, j'ai les cheveux longs et je me suis fait opérer de la myopie, quoi.
Ah ouais,
donc, faut
ouais.
que je recommence le dessin. Enfin, c'est ça tout le temps. Donc, c'est chronophage et en fait, déjà, je trouve que je fais payer, cher pour le temps que ça me prend. Non, mais pour au final, c'est cher pour les gens, quoi.
C'est combien, c'est?
Je crois que 4 personnes, c'est 190 euros.
Oui.
Donc c'est une belle somme, mais moi derrière, avec toutes les modifs qu'ils me demandent, c'est pas rentable, quoi, en fait.
Pourquoi tu mets pas des conditions un peu strictes ?
Mais je mets des conditions ! C'est sur le site internet, c'est sur le bon de commande, c'est sur le devis, mais non, ça ne rentre pas.
Ah ouais.
Tu sais, c'est comme si tu fais une annonce, je sais pas, sur Airbnb ou Vinted, les gens ne lisent pas, en fait.
Oui.
Ils regardent la photo,
ouais.
mais ils ne lisent pas.
Ouais.
Donc ça,
Donc ça, c'est ce que t'as fait à un moment pour arrondir les fins de mois.
Ouais, mais ça marchait super bien. Là, dernièrement, je suis partie 15 jours avec mon fils au Maroc et je me suis dit, je vais me faire chier 15 jours au Maroc. Donc je me suis dit, bon, ouais, je vais prendre un peu de boulot. Donc j'ai rouvert, entre guillemets, la boutique et j'ai eu 20 commandes. Donc j'ai tout pris comme D'accord. une idiote, ouais. sauf que j'ai eu 20 commandes à faire en 15 jours. Ouais. Bah, du coup, ça m'a pris 15 jours.
Ouais. Il va être content, ton fils.
Bah, il m'a pas vu, il était tranquille. Ouais. Il était tranquille, mais bon, j'ai pas beaucoup vu le Maroc, du coup, mais bon.
Ouais, donc tu fais des trucs comme ça, un peu par flip, quoi.
Oui, à un moment donné, je faisais de la céramique aussi. Enfin, j'avais une copine qui faisait de la céramique, qui était potière, et moi, je dessinais dessus. Donc, on se faisait les marchés de Noël. Mais c'est pareil, c'est un rush incroyable pour sortir, entre guillemets, une collection. Mais installer le stand, enfin, des trucs. En plus, moi, je sais pas faire ça. Donc je faisais ça et puis après je m'étais dit bon bah alors puisque les gens aiment bien ça donc je me suis dit je vais m'acheter une presse à chaud et puis je vais m'acheter plein de mugs et puis plein de trucs et puis je vais dessiner dessus puis je vais faire mes propres impressions mais c'est pareil c'est con ça prend un temps de malade puis après faut que t'ailles à la poste que t'affranchisses enfin voilà non c'est trop chronophage.
Ouais. Il y a de la prod partout en fait.
Mais partout ouais. Mais c'est insensé et puis là j'ai en projet de j'ai plein de projets de faire un livre que je sais que je pourrais pas vendre à un éditeur, bref. Donc, je me dis, bah, je vais le faire en auto-édition. Donc je le fais le soir après avoir fini ma journée de travail. Mais je me dis, mais alors en admettant que tu en vendes, je sais pas, 200, 300, 500, 4000, mais qui va affranchir? Qui va aller à la poste? Ouais. C'est toi, Caro. C'est débile.
Oui, tu fais des trucs pas forcément rentables.
Si tu fais le ratio temps de travail, argent à la fin, non, c'est nul. Ouais. C'est nul à chier.
Alors, t'as quand même une certaine notoriété, t'as quand même produit. Tu vois bien l'effet que ça fait sur les gens. T'as une page Wikipédia, quand on tape ton nom, il y a plein de trucs qui remontent.
Oui.
Voilà. Est-ce que du coup, t'as l'impression qu'il y a un rapport biaisé, peut-être, à tes revenus, que les gens ont l'impression que t'es plus riche que tu ne l'es?
Ah ben ouais, mais c'est pour ça que j'ai fait la BD Ma vie d'artiste, pour expliquer comment ça se passe en fait quand t'es auteur. Et c'est pour ça aussi que je publie régulièrement sur Insta la petite story que t'as vue sur comment ça se passe quand on est auteur. En plus, j'habite un petit village, donc on peut s'arrêter très facilement au fait qu'on te voit à la télé ou qu'on voit des articles sur toi, je sais pas, dans Télérama ou quoi. Tout de suite, on a l'impression que t'es installé, que t'as un hélico dans ton jardin et une piscine, quoi. Et en fait, bah non. En fait, quand t'achètes une BD à 20 balles, moi j'ai 2 euros et une fois que j'ai remboursé ce putain d'avaloir. Donc non, non, pas du tout. Et si j'arrive à bien vivre, c'est parce que je bosse tout le temps.
Mmh. Alors quand tu dis bien vivre, tu t'en sors finalement à peu près combien par mois ?
Et bien là, je sors de chez ma nouvelle éditrice, donc je peux te dire royalement que je vais gagner 1800 euros par mois. Là-dessus, tu as les charges, tu as les impôts, tu as tout ça. Sachant quand même, pour être honnête, que j'ai eu un premier versement de 6000 euros, je crois. Donc en gros, mon avaloir était de 22 000 euros. Mais pour un an, là, carrément, une vraie année de travail.
Donc, pour les gens qui nous écoutent, ça fait à peu près combien d'être autrice de BD, de bosser non-stop, mensuellement, sans compter en avaloir, etc., qui n'est pas forcément clair, finalement, tu peux espérer gagner combien?
Alors, si tu fais qu'une seule BD par an, t'as le SMIC et encore, avec tout ce que je fais en plus, voilà, et donc les droits en plus qui commencent à tomber, là, de la différence et tout ça, j'ai calculé à peu près que j'arrivais quand même à gagner 2 500-3 000 par mois. Mais ce qui est très, très dur à gérer, et en fait, moi, ça me stresse terriblement, c'est que, par exemple, juillet-août, je vais rien gagner.
Oui, mais ce qui est l'eau de beaucoup de freelance.
Ouais. Voilà, ouais. Aucun encaissement. Septembre, éventuellement. Donc, tu as des mois à zéro, et tu as des mois, bah, par exemple, si tu as des droits qui tombent, à 10 000.
Oui, donc tu es toujours en train de mettre de côté.
Je suis toujours en train de mettre de côté pour déjà les mois d'été, quoi. Parce qu'en plus, c'est con, mais le mois d'août, c'est les vacances. C'est le mois où tu vas encaisser zéro, quoi. Mais effectivement, les freelances, c'est ça en général. Seulement, le monde est fait pour les salariés. Hein.
Ça crée beaucoup de stress.
Ah oui. Ah oui, oui, énormément. Énormément.
Et en même temps, tu as très conscience que tu ne pourrais pas retourner dans une entreprise classique, alors que tu serais tout à fait embauchable.
Mais j'en serais malade. Non, mais embauchable de rien, puisque je ne suis que graphiste. Et encore, du coup, ça va faire 20 ans que je n'ai pas pratiqué. Mais il y a quand même des fois où je me dis, mais arrête, franchement, arrête. Je rêverais de rentrer à la maison en me disant, le job est fini.
T'as toujours des devoirs.
Je ne connais pas ça, je ne connais pas. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais même en vacances, c'est... En plus, tu vois bien, avec les réseaux sociaux, c'est un vrai piège. Je publie, j'ai une page Insta que j'alimente, puisque c'est très important maintenant dans notre monde pourri d'avoir des likes c'est tout con, avoir un avaloir ou des clients.
Ça, c'est important, ça pèse dans la balance, l'éditeur t'en parle de ça.
Plus dans la pub. Dans la pub, oui, plusieurs fois on m'a dit, écoute, on préfère vraiment ton boulot, ton dessin, mais elle a plus de followers. Après, si t'as une énorme communauté, comme on dit, t'as plus de chances de vendre des albums. Et les publications que tu vas faire sur ton compte ont plus de chances de ramener des lectrices ou des lecteurs. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, il faut que j'alimente cette page. Donc, il faut que je fasse des dessins. Et moi, mes dessins, c'est des trucs de vie quotidienne. Donc, c'est des trucs... Par exemple, ça se trouve, j'en sais rien. Je vais faire un dessin sur là, maintenant. Et je réfléchis tout le temps. Ouais. À ce que je pourrais faire tout le temps. Bon, maintenant, on peut noter sur son téléphone, mais j'avais toujours des carnets, selon les thèmes, où je notais toutes les idées. Et ça m'arrivait 10 fois par jour. J'avais des carnets remplis. Là, maintenant, c'est sur mon téléphone. Tout le temps, je suis en alerte. Je suis en alerte, en fait. C'est vrai que j'aimerais vraiment appuyer sur la touche off, quoi, de temps en temps, ouais.
Cette suractivité mentale, elle est effectivement, c'est le lot des freelances, mais alors dans le cas où on est dépendant de sa propre production intellectuelle, c'est sans fin.
Et ta création, en fait, de trouver. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je trouve toujours des idées. Et c'est épuisant.
Et donc, changer, arrêter. Tout ce que tu dis, j'aimerais bien être serveuse, j'aimerais bien être actrice.
Oui.
Mais finalement, tu le fais pas.
Ben non, parce que ce serait déjà un échec. Mais c'est quand même de plus en plus envisageable. Par exemple, un truc tout bête, faire une saison d'été ou d'hiver quelque part. mon fils aîné, il bosse, par exemple, là, ça fait une saison d'été, une saison d'hiver qui fait du saut à l'élastique. Il bosse dans le saut à l'élastique, il pousse des gens dans le vide. Et cet hiver, ils avaient besoin d'une secrétaire pour prendre les gens, les faire payer, enfin bon, bref. Bon, j'ai appris ça trop tard, mais en fait, je me suis dit, mais c'est tellement ça que j'aimerais faire. Me faire une saison, ouais, une saison où vraiment je pose le cerveau, où j'ai rien d'autre à faire que de servir des gens, quoi.
Est-ce qu'il t'est arrivé de chercher des thèmes en te disant oh, vas-y, c'est pas le truc que je préfère, mais je vais sortir une BD là-dessus. Au moins, je suis sûre qu'il y a un public, une audience et je vais faire plus de pognon.
Ah non, jamais. La différence invisible sur le syndrome d'Asperger, sur l'autisme, je l'ai accepté parce que c'était un truc qui me passionnait, mais j'étais persuadée qu'on allait se planter. Parce que je me suis dit, mais alors ça, qui ça va intéresser? Et en fait, c'est mon plus gros succès. Donc, ouais. Je crois que je suis nulle aussi en prédiction ou quoi que ce soit. Et il y a des choses que j'ai faites. Par exemple, ma dernière BD avec Anna Roy sur le Baby Clash et tout. Je crois qu'il s'est pas très bien vendu non plus. Bon, en même temps, il y a eu zéro promo. Enfin, ça, on a été nuls. J'y croyais tellement parce que quand je voyais tellement de femmes qui galèrent après leur accouchement dans leur couple, même relation avec le bébé, et puis Anna Roy, quoi, elle est tellement passionnante et voilà. Et ouais, bah là on s'est planté alors que j'y croyais vraiment. Je me suis dit, oh putain, cool, ça va faire des droits où tu parles. Ouais. Bah ouais.
Ouais. Oui, parce qu'il suffirait de 5 ou 6 BD.
Bah oui.
Voilà.
Mais c'est pour ça que doit y avoir des auteurs, genre les gros auteurs et tout. Franchement, ils doivent vivre hyper bien. Ils doivent pas stresser comme ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sortent un album tous les 5 ans. C'est sûr. Après, c'est moi aussi qui m'impose ça, une BD par an, parce que, ouais, je veux pouvoir aller au resto quand je veux. Je veux pouvoir me payer 15 jours au Maroc en Airbnb avec mon fils si j'ai envie. J'ai la chance d'avoir un métier où je peux me dire, bon, bah, il faut juste que je travaille plus pour avoir plus de thunes. Il y a des gens qui aimeraient avoir plus de thunes et qui sont juste coincés dans leur métier. Moi, je peux prendre plus de boulot et gagner plus de thunes.
Est-ce que tu parles de ça, de ces conditions financières avec d'autres auteurs de BD?
On ne parle que de ça.
Ah!
Dans les salons, dans les trucs, on ne parle que de nos avaloirs, on ne parle que du système, on ne parle que de comment on pourrait faire. Mais bien sûr, c'est notre sujet principal, en fait.
Alors, c'est quoi les solutions?
Je sais pas, parce que si tu touches à un truc, tout s'écroule, en fait. Le système ne tient que parce que l'auteur est tout petit et ne dit rien. Mais si tu commences à augmenter l'auteur, à le payer bien... et à lui donner plus de droits sur son livre, parce que... Alors, 10% en plus, c'est un auteur de BD. Hein. En jeunesse, ils ont 5%, ils ont parfois 3%, 4%. Moi, il y a des livres où j'ai 2%. Autant te dire que je ne toucherai jamais rien. Et les avaloirs en jeunesse, c'est pas 22 000 euros. Hein. Bon, après, tu passes pas un an à faire un album jeunesse, mais tu bosses quand même, quoi. Donc si tu commences à augmenter les auteurs, faut bien que quelqu'un rogne quelque part. Et les autres, ils vont pas rogner. Tu vois? Alors, on tape souvent sur les éditeurs, parce que c'est eux qui récupèrent le pognon avant de le dispatcher, mais c'est pas lui qui va gagner le plus non plus. Et après, les autres, ils vont pleurer, ils vont dire « Ouais, mais nous, on a des charges, etc. La somme que tu vois... Mais moi aussi, j'ai des charges. Johnny, je paye mon électricité, je mange quand je travaille. Moi aussi, j'ai des charges. » Après, il y a le rapport Racine qui est sorti il y a quelques années, qui essayait un peu de faire bouger les choses, qui a été royalement mise au placard par Roselyne Bachelot, entre autres. Mais dès que t'essaies de faire un truc, t'as le syndicat des éditeurs qui bloque. Quand c'est pas eux, je ne sais pas. Mm. C'est pas mon rôle en même temps, mais je ne sais pas.
Oui, il n'y a pas une revendication forte des auteurs qui dirait « on mérite de gagner trois fois ça ».
Mais on le dit tous.
Ouais.
Mais alors maintenant, t'as la Ligue des auteurs pros qui essaie de faire bouger les choses. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Mais Johan Sfar ou Riyad Satouf dirait quelque chose, ça aurait du poids. Peut-être qu'on les entendrait. Alors peut-être qu'ils l'ont dit une fois de temps en temps comme ça, mais ce serait eux notre porte-voix, tu vois. Parce que moi je gagne bien ma vie. Quand je te dis ça, je gagne bien ma vie, mais il y a 53% des auteurs sont sous la barre du SMIC et 36% sous le seuil de pauvreté.
Tu parles des auteurs de BD?
Des auteurs en général. Oui. Moi, ça va. Mais c'est pas le mec qui est à 36% là sous son seuil de pauvreté, c'est pas eux qu'on va entendre. C'est comme les dédicaces qui sont bénévoles. Ça aussi, ça commence à me faire chier, quoi. Je veux dire, c'est souvent un week-end. En plus, c'est les week-ends. Donc, tu vois pas tes enfants pendant un week-end. Tu pars souvent le vendredi pour y être le samedi matin, première heure, pour faire des dédicaces qui ne sont pas payées. On a coutume de dire que la salle est payée, les plantes vertes sont payées, le restaurateur, je sais pas quoi, est payé. L'auteur n'est pas payé. Sans auteur, t'as pas de festival. Enfin, si tu réfléchis à ça, c'est dégueulasse.
Ouais, aberrant.
C'est dégueulasse. Ouais. Mais tu vois, j'ai encore reçu une demande pour un festival là, et l'organisatrice me dit oh, « La subvention que je reçois ne me permet pas de vous payer les dédicaces. En revanche, ce que je vous propose, je vous paye le frais de transport. » J'ai dit, mais je vais pas me payer. En plus, c'est 7 heures de train. Je vais pas me payer 7 heures de train. On connaît le prix du train. Pour aller bosser bénévolement et pour vous rapporter de l'argent. Enfin, vous êtes en plus subventionné pour organiser ce truc. Mais c'est quoi l'accord, en fait, que vous me proposez? C'est comme si elle me faisait une fleur. Mais voilà. Encore maintenant. C'est ça tout le temps, en fait.
C'est ça tout le temps. T'es obligé d'apprendre à te défendre.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, je sais pas faire ça. Parce que j'ai encore l'impression, quand on m'invite en festival, qu'on me fait une fleur. Et en fait, c'est comme quand t'as un agent, en fait. Quand t'as un agent, je me souviens, une de mes précédentes agentes qui me dit, mais tu m'as jamais remercié. J'ai dit, mais oh, tu bosses pour moi, en fait. Ça, j'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire. Mais en fait, elle bosse pour moi. Elle se fait de l'argent. Et en plus, c'était du racket, parce que tout ce qui m'arrivait, je devais lui laisser 30%. Même les trucs qu'elle avait pas trouvé ou quoi. C'est le principe, hein. C'est comme ça, c'est partout pareil.
Le travail gratuit, c'est un gros sujet, hein, dans ce type de métier. Mmh. On te propose, j'imagine, ou du moins dans tes débuts, on a dû te proposer pas mal de plans, échanges, travail contre
Bien
visibilité.
Sûr. Ouais.
Ça aussi, c'est quelque chose contre lequel t'as dû.
Oui, bien sûr. Ouais. Et même, alors, ce qui se fait aussi, qui me fout hors de moi en festival, c'est les gens qui n'ont pas ton bouquin, mais une feuille de papier, qui te disent, j'ai oublié le dessin à la maison, est-ce que vous pouvez me faire un dessin sur la feuille? Donc, bah oui, parce que tu sais pas, en fait. Et ta feuille, tu la retrouves en vente sur eBay. Ah ouais. Sur eBay, sur Vinted, sur tout ce que tu veux, quoi.
Ouais.
Et c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Dur. Mais quand tu réfléchis 5 minutes, en fait, c'est dégueulasse.
Est-ce que t'as l'impression que les hommes négocient mieux que les femmes dans ce milieu?
Oh bah sûrement. En plus, quand on est une dessinatrice girly, on a le syndrome de l'imposture deux fois plus fort. Puis on te fait bien sentir que tu n'es qu'une fille dans un milieu d'hommes. C'est en train de changer. C'est en train de changer.
Grâce
au fait qu'il y ait de plus en plus de filles éditrices, de plus en plus de dessinatrices aussi, et puis on se rend compte que les histoires de filles se vendent, en fait. que mon éditeur, qui avait aussi une librairie, m'a dit, bah, je fais un coin féministe. Il appelle ça un coin féministe dans ma librairie avec des ouvrages de filles. Dis donc, c'est marrant, ça se vend.
Tu crois que dans ton cas, enfin dans votre cas des auteurs, autrices spécifiquement, ouais, c'est des industries qui sont basées sur votre désir de travailler, votre désir d'être visible.
Ouais, puis je te dis, c'est exactement ça. Quand on te file un avaloir de 3000 euros pour être publié, tu dis merci, quoi, parce que t'es vraiment content. Et t'es vraiment content. C'est quand tu commences à réfléchir, tu dis oh, ben non, en fait, merde, mais c'est trop tard. Et puis, si toi tu vas dire non, je suis pas d'accord, t'auras toujours un jeune illustrateur ou une jeune fille qui veut se faire publier qui acceptera. Toujours.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'il faudrait qu'on se serre les coudes. C'est pour ça qu'il faudrait que les grands parlent pour les petits qui crèvent la dalle. C'est pour ça que je suis sûre que si Zep ou tous ces grands noms disent bah non, moi j'arrête, moi je rends pas mon album tant qu'on n'a pas négocié 10% de droits pour tout le monde par exemple.
Est-ce que tu crois qu'aussi dans la perception des gens, il y a d'un côté ceux qui créent et de l'autre côté ceux qui comptent?
Bah sûrement, mais c'est là aussi qu'on se fait avoir, hein. Quand t'es créatif, tu vois bien, je suis incapable de sortir un chiffre, j'ai l'impression que je me plante à chaque fois, je sais même pas combien d'albums je vends, sauf la différence, parce qu'on me l'a suffisamment répété, mais je fais pas du tout attention à ça. J'ai l'impression que mon cerveau efface toutes les données, après les avoir vues, parce que je vais faire ma déclaration, mais je vais oublier, mais 3 jours après, je saurais même pas combien j'ai déclaré.
Dans le fait d'être autrice, est-ce qu'il y a quand même une valorisation autre qui n'est pas une valorisation pécuniaire, mais qui est un certain type de reconnaissance intellectuelle, de validation sociale? Est-ce que dans les dîners, c'est sympa ou pas?
Alors, ça intrigue beaucoup, surtout quand t'es une fille, parce que c'est encore un peu ça. Et c'est vrai que j'ai une certaine jouissance à dire quand on dit « Toi, tu fais quoi ?» Ben moi, je suis autrice de BD. Donc, ouais, tu sens que il y a ce petit effet de surprise. Mais j'ai la chance de vivre vraiment en pleine montagne, au milieu d'agriculteurs et de gens qui n'ont strictement rien à foutre, en fait, je pense.
Ouais.
Donc voilà, celui-là, ça s'arrête là.
Ta retraite, c'est un truc qui te fait flipper?
Complètement. Mais c'est pour ça que je mets de côté. Je ne veux même pas savoir combien je gagnerai. Parce qu'on entend déjà tellement que la retraite pour les salariés c'est le bordel, alors pour les artistes j'ose même pas. Après je m'imagine pas du tout arrêter de travailler, parce que je m'imagine pas avoir fait tout ça aussi pour crever de faim, mais comme tout le monde, hein, tu me diras, c'est débile ce que je raconte, mais
Tes parents t'avaient dit ne fais pas ça.
Oui.
Est-ce que tu dirais à tes enfants de faire ça?
C'est très très dur, mais je suis la plus heureuse du monde quand je suis derrière mon bureau, quoi.
En train de dessiner.
En train de dessiner.
Bah, c'est ça aussi, c'est ça dont il faut qu'on parle. C'est-à-dire le prix à payer est élevé, mais au final, t'as un kiff absolu dans ton travail.
J'ai un kiff absolu. Et je leur dis, je leur dis aux enfants, forcez pas à faire un truc qui vous rebute vraiment, parce que vous allez être malheureux toute votre vie, quoi. Il vaut mieux en chier et vraiment être heureux d'aller au boulot. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille. Mais je suis tellement heureuse. Mais tellement heureuse. Demain, en rentrant, je vais avoir 4 heures de train. Je sais que je vais bosser pendant 4 heures dans le train. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à dessiner. Ouais. Et je fais ce que je veux, quand je veux. Si je veux bosser toute la nuit, je bosse toute la nuit. Et c'est pas un problème, j'adore ça. Et c'est pour ça qu'être postière ou serveuse, ouais, j'aurai le cerveau au repos. Mais est-ce que je serai aussi heureuse? Je sais pas.
Vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.